Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous perd dans les mondes infinis et dimensionnels du comics. Adimensionnel n'est pas un adjectif, je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. Cette semaine, on vous parle de Horizon Oblique ou Hexagon Bridge. J'ai pas compris la traduction du titre Hexagon
Bridge. Moi non plus, hein. Ouais. Le pont hexagonal, ça marchait bien aussi.
Bah ouais.
Après, je pense qu'il voulait un haut pour avoir le logo.
Peut-être le truc hexagonal en France, on pense tout de suite à la métropole, quoi. Ça peut être.
Franchement, la traduction française, je la trouve plus jolie que la vraie traduction. Donc, la licence poétique est méritoire. Ouais,
je pense que c'est le titre québécois.
Ah, peut-être. Ah. Donc, pour faire tout ça, je suis avec mon équipe merveilleuse et sémillante, à commencer par Faye. Salut Faye, ça va Faye ?
Salut, bah oui, ça va très très bien, écoute.
On est aussi avec Sophie. Salut Sophie !
Salut !
Spades. Salut Spades.
Yo.
Et on a une invitée talentueuse et géniale qui s'appelle Albatros, qui est streameuse et que vous allez découvrir un peu plus dans l'actu comics plutôt. Non, l'actu pop, excusez-moi. On fera une petite interview. Bonjour Albatros. Salut, ça va ?
Salut, bonsoir. Merci en tout cas de l'accueil.
Avec plaisir, c'est trop cool. Il y a XP qui te demande si Sophie t'as un nouveau micro. Putain, je mélange les mots.
Non. Maintenant tu mets un doute, je vais me dire est-ce que ça a bien sélectionné le bon micro. Bah ouais, normalement c'est le bon micro.
C'est il apparaît un peu plus que d'habitude sur ta active webcam, c'est surtout ça.
Ah non,
je changeais la position du micro en espérant que ce soit un peu mieux.
Donc cette semaine, on vous parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'Horizon Oblique de Richard Blake. Mais avant, déjà il va y avoir la petite reco culturelle comme d'habitude. Mais on a eu un petit commentaire sur Podcast Addict, donc je tiens à le souligner parce qu'il est positif. Donc
et que ça fait plaisir. C'est
et ça fait plaisir d'avoir des commentaires, surtout des commentaires 5 étoiles. Donc bah je vais vous le lire parce que il est sympa. C'est Romain 04. C'est quoi comme département le 04, je ne sais même pas. Bon bref.
Continue, digresse pas. Commence.
Je ne digresse pas, oui. qui nous dit toujours passionnant, écouter des passionnés, toute une bande de véritables connaisseurs qui vous transmettent leur amour du comics et de la pop culture. Écouter l'un de leurs épisodes, c'est comme passer un bon moment avec des potes. On rigole et parfois on n'est pas d'accord, parfois même c'est peut-être agaçant. Ouais, je suis désolé si on est agaçant, mais ça m'étonnerait pas qu'on soit agaçant.
Non, mais après, c'est peut-être agaçant parce qu'on peut pas nous répondre. Mais faites comme
oui,
moi.
Peut-être.
Moi, je parle toute seule et je réponds à ce que je regarde et ça marche très bien.
Oui, c'est vrai.
C'est dans ma voiture.
C'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter des podcasts de quiz parce que j'insultais tout le monde autour de moi.
Moi, ce que j'adore, c'est dans le tramway quand les gens ils me regardent en mode c'est quoi cette folle. On parle, vas-y.
Il continue en disant mais je vous assure que l'on passe toujours un bon moment dans l'univers de James et Faye. Longue vie à Comics Discovery. Eh ben, merci beaucoup, Romain. Même si tu écris Comics Discovery, arrêtez d'écrire Comics Discovery avec un espace entre les deux.
C'est
accroché.
James, sois gentil avec les auditeurs et les auditrices.
Et on me dit que 04, c'est Alpes de Haute-Provence. Peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à faire comme Romain, à nous mettre un petit commentaire 5 étoiles sur vos applications de podcast. Ça fait toujours plaisir d'avoir. Et surtout avec un message aussi gentil.
Bah d'avoir du soutien, c'est toujours chouette.
Ouais.
Ça donne moins l'impression qu'on parle dans le vide.
Effectivement. Donc, on va commencer avec la petite recommandation culturelle. Chaque semaine, on essaie de vous proposer un truc qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on a entendu, ou même qu'on a goûté, quoi que ce soit, qu'on a envie de partager avec les auditeurs. Et maintenant, je me dis que j'ai peut-être complètement oublié de dire à Albatros qu'il y avait une concordance culturelle.
Te connaissant, mon cher James, c'est plus que probable.
Oui, c'est plutôt probable, oui, effectivement.
On a oublié de me dire quoi ?
Si qu'il y avait une reco au début de l'émission.
Si on m'a dit, du coup, je...
Ah, trop bien.
cherchais
dans ma
bibliothèque.
Tu vois, t'as été mauvaise langue,
Faye. Bah, je sais pas, moi, avec lui, je sais que.
C'est vrai qu'habitude, j'oublie toujours de le dire. Mais là, j'ai bien fait, je l'ai dit. Bah, je sais pas si tu veux commencer, tiens, Albatros, pour nous proposer ta petite reco.
Non, je vais laisser les autres faire comme ça la première
D'accord,
fois. Enfin, un peu
problème.
Comment les gens font. Tu sais, c'est un peu genre, je suis la nouvelle dans la classe, donc je vais voir comment les autres. Qui on va interroger? Alors, la personne qui ne regarde pas.
Ton papa, il fait quoi? Ta maman, elle fait quoi?
Bah, Spades, tiens.
Il
une reco à nous proposer.
Il aurait pas dû parler.
Bah, tiens, pour une fois, je vais recommander un film récent.
Vas-y. Donc,
la semaine dernière, j'ai vu Monkey Man. Donc,
Le
nouveau film de Dev Patel. Ouais. Je suis en fait, le film est perfectible. J'ai vu beaucoup de défauts, mais il est vraiment sympathique. Il y a un véritable fond social qui est très intéressant. Mm-hmm. Et ça mérite le coup d'œil malgré un rythme un peu étrange, on va dire. Ça prend beaucoup de temps au début avant de vraiment se lancer. Et des scènes de baston qui sont pas top quoi, mais franchement ça mérite un vrai coup d'œil.
Ok,
il faut qu'on aille le voir. Luna elle l'a déjà vu deux fois, et ben peut-être une troisième avec nous. Je sais pas quand on aura le temps d'y aller.
Pour
XP, le tonton des États-Unis il l'a déjà, hein, le film. Il m'a dit il va le voir à Los Angeles, donc.
D'accord.
Ouais, bah c'est pareil avec mon mec. On s'était dit qu'on allait voir un week-end, mais entre le fait qu'on a plein de week-ends avec des mariages, des week-ends prolongés où tu en profites pour partir, tu fais bon bah c'est quoi qu'on va aller le voir.
Qu'est-ce qu'ils sont pénibles ces gens à être heureux dans la vie, bordel.
Mais ouais, c'est chiant quoi. Toi, il est malheureux. Ouais.
Nous on veut juste du temps pour faire plein de choses, des émissions, écrire, faire plein de choses, et ben non, ils veulent pas.
Après, Ernest Hemingway disait qu'il faut vivre de la vie pour pas en parler dans ses livres. Je crois.
C'est beau.
En plus classe que ça.
Tu veux enchaîner, Faye?
Oui, si tu veux, avec plaisir. Alors, moi, c'est une reco. Demain, sur Netflix, il y a une série que j'adore qui remet, qui était sur Amazon Prime, qui avait été enlevée et qui revient sur Netflix. C'est Psych. Et je vous en ai déjà parlé. J'ai un amour pour cette série, mais inconditionnel, et vraiment je vous invite à aller la découvrir. Donc Psych, c'est deux amis d'enfance qui travaillent avec la police de Santa Barbara, et la particularité de ce duo c'est que l'un des deux, Sean, il fait semblant en fait d'être un médium, et donc il utilise son pouvoir, alors qu'en fait son vrai pouvoir c'est qu'il a un super sens de l'observation, enfin voilà, et plein de choses comme ça, et il utilise ce soi-disant don pour mener des enquêtes avec son meilleur ami d'enfance, voilà. Et c'est une série qui est hyper drôle, les persos sont attachants, il y a plein de références pop culture, mais qui sont bien utilisées, qui sont pas juste là pour dire ah regardez je vous sors tel truc de telle époque, non c'est ça sert dans l'histoire, ça sert pour partager les émotions, enfin c'est une série que j'adore, que vraiment je vous conseille. On en avait parlé dans Geek en série, on avait reçu Yael pour l'occasion, et ça a été un plaisir d'en parler avec elle, et vraiment voilà, je vous invite à aller découvrir cette série parce qu'elle est pas assez connue et elle est géniale, pardon. C'est Psych, foncez, ça y est, demain matin, sûrement à partir de 9h.
Une série bien plus geek et bien plus mieux réalisée que Big Bang Theory.
Non, mais ça arrive.
Big Bang Theory,
ça t'as vraiment une
rien à voir. Pour le coup,
ça n'a rien à voir. Hein.
Bah, je me dis, c'est cool parce qu'en ce moment sur Netflix, t'as déjà Monk, là, tu vas voir Psych. Ouais. Si vous aimez le procédural,
c'est dans le même univers.
Fun. Mais
si vous devez voir qu'un épisode de Psych, c'est celui où il se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Dualpine à enquêter sur un meurtre d'une jeune femme qui s'appelle Paula Meral, qui est en fait un hommage à Twin Peaks, qui est absolument merveilleux cet épisode.
J'adore. L'épisode vampire aussi, j'aime bien.
Alors, le truc qui me chagrine, c'est que j'avais commencé à la regarder quand c'était sur Prime, et que du coup, là, c'est passé sur Netflix, mais je vais pas savoir où j'en ai suivi, du coup.
Bah, il faut recommencer du début. Moi, dès demain, je vais me la refaire.
En fait,
parce qu'elle est pas trop
série
trop
où je me suis dit, je vais recommencer du début pour Medium, je vais recommencer du début pour Monk, et c'est des séries qui sont très longues. Tu peux pas faire ça avec toutes les séries, c'est pas possible, quoi. Sachant que je fais ça tous les 5 ans avec Buffy, X-Files, à un moment donné.
Salut Riley.
Coucou Riley.
Effectivement.
On parle de Buffy, ça y est, il y a l'agent Finn. Voilà.
L'invocation a marché.
T'es en train de remater Buffy, mais je l'avais dit la semaine dernière, et on est arrivé au moment où Riley est là. Et c'est vraiment le pire personnage.
De joie.
C'est le pire personnage de cette série, ce mec.
Oui, mais il va avec les meilleurs épisodes de la série, quasiment.
Ouais, on vient de voir l'épisode sur Jonathan. Il est trop bien.
Superstar dans la saison 4, voilà.
les petites interactions avec Spike, elles sont géniales.
Et ouais. En plus, Spike est génial cette saison.
Ouais.
Ah, mais Spike est tout le temps génial, oui, à part dans le final de la saison 6. Pour une certaine scène, j'en dis pas plus.
Oui.
Mais warning, voilà. Continuons, Jeff, sinon on va parler de Buffy pendant au moins 3 heures.
Ouais. bon, moi je vais rester sur la série télé. J'ai vu Mon Petit Reine sur Netflix. J'avais très peur parce que, comme Sophie, le nom me faisait un peu peur et l'affiche m'avait fait un peu peur. Je m'étais dit, oh, c'est bizarre comme parti pris. J'avais vu une petite reco qui en parlait et j'avais peur qu'il y ait un petit côté grossophobe, puisque pour vous donner le pitch, en fait c'est un mec qui est apprenti humoriste, en fait qui fait du stand-up et qui va avoir une espèce de stalkeuse qui va le stalker et qui va le harceler et on va voir un peu comment il va s'en dépatouiller et comment ça va chambouler sa vie. Moi, j'avais un peu peur du côté... parce qu'en fait, dans la bande-annonce, ça fait un peu... Oui, c'est rigolo, il a une stalkeuse, elle est assez forte, elle est assez ronde. Et j'avais peur du côté... Ah oui, c'est drôle parce qu'elle est grosse, et nanana. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment pas une série... Déjà, Trigger Warning, c'est vraiment une série que je conseillerais pas à tout le monde parce que c'est pas facile à regarder. Il y a des scènes graphiques très, très... dures à voir. Il y a notamment tout un épisode autour du viol qui est vraiment compliqué à voir, mais qui est plutôt bien foutu. Pour être sincère avec vous, ça m'arrive souvent, mais j'ai commencé le premier épisode et bah j'ai fini à 4h du matin parce que j'ai regardé tout d'un coup. Vraiment, la série, elle est vraiment cool, elle est vraiment intéressante, elle a un vrai propos intéressant et cool sur le viol et sur ces personnages qui sont un peu bigger than life et qui arrive plein de problèmes. C'est un truc totalement autobiographique, ce qui apporte un petit côté, on se dit ah merde, c'est fou comment un truc comme ça peut arriver dans la vraie vie. Mais vraiment, la série est plutôt bien réalisée, plutôt bien écrite, et vraiment je vous la recommande fort, mais en y mettant des pincettes parce que c'est pas facile à regarder. Et moi, je sais par exemple que j'ai dit à Faye de pas la regarder parce que si vous êtes sensible à certaines thématiques et notamment le harcèlement et le viol, bah ça pourrait vous mettre mal, hein. Moi, je sais que je sais plus, c'est comme j'ai tout maté d'un coup, j'ai pas le numéro des épisodes, mais il y a un épisode vers la fin j'ai mis pause et il m'a fallu bien 10 minutes pour penser à autre chose et c'est pas facile, quoi. Voilà. Je sais qu'Albatros m'a dit que tu l'avais maté.
Ouais, je l'ai vu. Alors moi, je l'ai vu, j'étais en train de dessiner au KLM un dimanche après-midi, je voulais passer une bonne journée. Je voulais regarder un truc léger, je me suis dit « Oh vas-y, ça a l'air drôle !» Mais sauf que moi, j'y suis allée nature. Genre juste, j'y suis allée mais full nature, j'étais au courant de rien. Le premier épisode, je suis en mode « Ah sympa, vas-y, bon délire et tout !» Et au fil de la journée, j'étais en mode « Waouh !» Et le pire, c'est que le soir, je lance un film. Merde, c'était quoi un film qui vient de sortir avec qui avait l'air d'une dope parce qu'il y a Mila Jovovich sur Prime qui s'appelle Breeze, et je me dis vas-y, ça a l'air bon délire, un truc à la Resident Evil et tout. Non, badant pareil.
C'était pas ta journée, quoi.
Là tu vas me coucher, toi, waouh, moi qui voulais passer une journée légère. Donc ouais, non, par contre j'approuve sur le propos aussi qui est vraiment bien amené. Et quand à la fin de la série j'ai réalisé que c'était une histoire vraie et que c'était le gars concerné qui jouait son propre rôle, j'ai fait ah ouais, ouais, c'est le gars qui a vécu ça qui joue son propre rôle. Donc j'étais un peu en mode ah, mais du coup c'est bon. Mais vraiment en soi, il y a des épisodes durs, mais en fait je trouve ce que je trouve très intéressant, c'est que au début le mec il passe vraiment pour un lâche, vraiment gros naze quoi, mais c'est même le plot de base, minute 1 tu comprends que c'est un gros naze, et que le gars se décrive lui-même comme un gros naze, je me dis waouh. Ouais,
il y a une explication pourquoi il est comme
oui,
ça.
Oui, bien sûr, mais donc voilà, bonne, très bonne série, je conseille aussi.
Bah après, c'est peut-être thérapeutique pour lui, parce que c'est vrai que des fois, quand on écrit ou autre, pouvoir justement utiliser la fiction pour parler des traumatismes, ça aide beaucoup. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Ouais.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Bon, allez.
Du coup...
Vas-y, Alba.
Maintenant qu'on m'entend. Correctement. Voilà, exactement. Ma recommandation, du coup, c'est un livre, c'est Absolu. Les mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. On pensait que la dystopie était morte, moi aussi, fort, avec Hunger Games, et après le reste, le genre, je trouvais, était un peu tombé en désuétude, et il n'y avait pas beaucoup de vraiment trucs, de bons bouquins dystopiques qui sont sortis à mon goût. Et ben cet été, le tome 1 est sorti et je l'ai dévoré. Le plot est finalement assez simple et c'est pour ça qu'il fonctionne bien. C'est dans un futur dystopique machin, il y a eu une guerre terrible, Varsovie est tombée, on a mis des murs immenses parce qu'à l'intérieur il y a la chose avec une majuscule, et on envoie 100 gamins tous les ans entre ces murs pour affronter la chose. Un plot vraiment simple, on suit du coup 4 jeunes qui sont balancés là-dedans. Et pas que, parce que en fait, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'il y a vraiment c'est vraiment un roman choral, et on suit plein de points de vue, et c'est hyper rythmé. Et les descriptions de la chose, du monstre, ça faisait longtemps que j'ai pas eu peur entre guillemets en lisant un livre où je m'étais pas sentie mal. Et dès les premiers chapitres, c'est très très catchy, très dystopique. L'écriture est fluide, accessible. Et comme c'est une autrice française, en plus, on souffre pas de la traduction qui peut être parfois approximative. Et le tome 2 est sorti là, il y a quelques semaines. Donc vraiment, si vous avez envie de vous mettre ou remettre au genre dystopique, vous passerez un très bon moment, j'en suis persuadée.
Voilà. Merci pour cette recours.
J'ai pas lu, mais l'autrice a un podcast assez cool. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Apostrophe ou Écriture. Enfin bref, elle a un podcast assez cool. Si tu tapes le nom de l'autrice, je le trouve.
Écriture. C'est pas Écriture. Ça me dit quelque chose, ce type de podcast.
Je suis pas sur l'écriture, je crois que ça.
Tu m'en as parlé déjà, je crois que le nom me dit quelque chose, Margot.
Bon, en tout cas, je suis tentée.
Ça a l'air cool.
Et regarde la belle édition reliée là, tout ça.
Est-ce que tu l'as acheté à Easter Egg?
Non, je l'ai pas acheté à Montpellier.
D'accord. Ah là là. Ça va. Tu es pardonné.
N'importe quoi.
Je suis assez maman. Non, mais maintenant, je dois acheter tous mes livres à Easter Egg, c'est terrible.
Ah ouais?
J'irai leur commander le tome 2, faut que je le prenne.
Voilà, exactement. Avant de se lancer dans la review, parce qu'on va se lancer dans la review, et merci encore une fois pour cette reco.
J'ai pas fait ma reco.
Ah oui, t'as pas fait ta reco, excuse-moi.
Tu me zappes à chaque fois.
Pour une fois que c'est pas moi qui ai zappé.
Selon lui, on parle trop, toi et moi. Donc.
C'est ça, il a décidé de couper court.
Vas-y, Sophie.
Et moi, je vais faire un reco un peu tardif parce que c'est un jeu qui est sorti il y a très très longtemps, mais le 2 arrive, donc voilà. C'est Frostpunk que j'ai enfin fini. Voilà, je joue pas souvent et étant sur Mac, en plus j'ai pas énormément de jeux qui sont disponibles sur Mac. Et celui-là, en fait, il est assez cool parce que le concept, c'est genre il y a une ère glaciaire. Et on est qui est arrivé à peu près au moment du Londres victorien, donc au niveau technologie c'est un peu coincé là-dedans, et du coup faut survivre dans cette ère glaciaire, et du coup toi tu dois gérer un petit groupe de survivants, et en fait tu dois prendre des décisions et des lois qui potentiellement peuvent être de gros dictateurs quoi, genre est-ce que tu fais travailler les enfants? Est-ce que tu autorises des gens à te soigner? Est-ce que c'est vraiment des trucs à la con, mais en fait ça va déterminer totalement le truc de survie, et en fait quand tu arrives à la fin, le jeu en fait il y a côté moral, enfin ça te fait réfléchir, et je le trouve hyper malin ce jeu, Franchement, c'est vraiment la merde pour survivre. Vraiment, c'est très dur d'y arriver.
C'est trop dur. Hein.
Mais ouais, il est dur.
Moi, j'y ai joué, mais il est impossible ce jeu.
Tu peux le finir. Mais faut pas avoir peur de prendre certaines décisions, quoi. Voilà,
sinon, tu fais toi tu vis, toi tu meurs.
Oui, c'est un peu ça.
Non, en fait, faut vraiment être dans un jeu d'équilibre. C'est un peu comme le jeu de cartes là sur téléphone qu'ils avaient fait basé sur Game of Thrones là.
Bartalo ? Non,
c'est des cartes où tu swipes et tu dois prendre des décisions politiques. Et t'as la guerre, le peuple, la bouffe et la religion. Et en gros, quand t'as un trop grand déséquilibre, bah en fait ça merde quoi. Et c'est un peu ça aussi dans Frostpunk. J'ai l'impression qu'il faut garder tout en équilibre et si tu perds un truc, ça part vite en live quoi. Mais voilà, c'est un jeu. Et alors, il y a le 2 qui arrive. Je sais pas ce qu'il va falloir, le 2. Je ne sais pas s'il sera disponible sur Mac, mais je l'attends impatiemment. Voilà.
Ah, mais tu joues sur Mac, toi ?
Bah, ouais. Elle vient de le dire. Hein.
Oui, c'est vrai. Pardon.
En fait, j'ai une PS3. De temps en temps, je joue dessus, mais c'est plus pratique de jouer sur Mac. Et puis, j'ai un peu l'écran sur mon Mac, alors, du coup. Les couleurs sont belles, ça donne envie d'y jouer.
D'accord.
En plus avec les dernières puces Mac, franchement ça peut accepter des jeux, donc c'est juste les développeurs qui ont pas trop envie de.
J'ai digression totale, mais t'as essayé Disco Elysium? Je suis sûr que ça te plairait, Disco Elysium.
Bah alors faudrait que ce soit sur si c'est sur Mac.
Je sais pas, moi j'ai joué sur Play, mais je suis sûr que ça te plairait. On en parlera en off, mais je suis sûr que le principe te plaira.
Je viens de taper, déjà le design est cool.
Ah ouais, c'est super beau, c'est super beau. Merci pour cette reco. Et je plus ça parce que j'y ai joué, même si je ne suis pas arrivé au bout, parce que comme je le dis, en plus je suis très mauvais. Mais j'avais
quand
essayé.
Quand tu peux être plus mauvais que moi qui joue vraiment, genre, très peu. Donc vraiment, je suis.
Ah, mais moi je joue beaucoup, mais je joue mal. Voilà, c'était la.
Ça veut dire que t'as de la patience parce que. Moi, je
et en plus j'aime que les jeux
durs.
Moi je suis un fan de Souls-like alors que je suis une merde totale, mais j'aime me faire du mal, je crois.
La run la plus longue de Sol.
On le dit que t'es maso de toute façon.
J'avoue, oui, t'es maso.
Je suis maso.
Moi j'aime les jeux où je peux être bourrine.
Mais en fait, si tu joues sur Soulka, tu devrais te filmer parce que moi je trouve un plaisir à regarder les gens qui se vautent sur Soul. Enfin, pas sur le Calibur, sur Soul.
Sur Dark Souls.
Soul, qui se vautent et qui rage. Je trouve qu'il y a un plaisir à entendre des gens et se dire ok, il y a d'autres personnes qui galèrent comme moi en faisant des jeux, ça me rassure.
J'avais fait un stream sur Oli Oli, donc il y a un jeu de skate, mais un jeu de skate arcade, donc qui est très très dur.
Et encore une fois, on digresse. Et c'est pas la faute à Space. Je suis témoin.
Mais du coup, je crois que j'avais joué 30 minutes sur la même map. Diane m'avait regardé. Et c'était sur la même map où je galérais pendant. Et c'était moi qui rageais pendant 30 minutes.
Tu nous as level 1 de Marcus qui durait trop longtemps, quoi.
Voilà, c'est totalement ça. Je sais pas si les plus jeunes d'entre nous ont la ref, mais ouais.
Ça va.
De quoi ?
Je dis, je me rappelle de Marcus.
Ouais, et tu pas de level 1.
Game 1 et de level 1.
Ah.
Je m'en rappelle. Je suis pas si jeune que ça. Hein. Vous savez, je vais avoir 30 ans cette année.
C'est juste moi qui suis très vieux.
Bah déjà, d'avoir tout juste 30 ans, t'es déjà plus jeune que nous.
Ah bah oui. Non mais, écoutez...
Oh putain, c'est moi, mon anniversaire c'est dans 2 semaines et j'ai vraiment
oh ça va.
Bref,
tu me précèdes, non, je crois.
Moi je suis le 16.
Mais t'es 87, mais t'es d'avant moi en 87.
Ouais, je suis de 86.
Tu me précèdes. Ouais.
Ah oui, vous êtes très pendant l'URSS.
Ouais. Mon frère est né au moment de la chute de l'URSS.
Je suis de 78, je me souviens de la chute du mur de Berlin, moi.
Moi aussi, 82. Et je me rappelle David
Asselineau.
Luna, t'es
plus jeune. Moi, je suis né en 82, je veux dire.
Je te voyais plus jeune que ça, Luna. Bref. Et oui, bah, XP78, tu es de 78. Mon Dieu, mais quelle révélation.
Quel twist.
Voilà, mais c'est pas moi que je voulais mettre en plus grand. C'est... j'en parlerai après. Hop.
Oui, des fois, ça arrive.
Je sais pas ce que tu fais, James.
Bah quoi, on n'avait pas dit qu'on posait des questions avant de.
Je pensais que c'était dans l'émission d'après, moi.
Oui, mais on va quand même pour les gens qui n'écoutent que. Parce que des fois, il y a des gens qui n'écoutent que Comics Discovery et qui n'écoutent pas l'Actu Pop. Donc on va parler vite fait de Albatros avant qu'on en parle plus longuement dans l'Actu Pop.
Alors
même
moi
si
déjà.
Vous avez l'habitude, hein. Et en plus, le pire, et je suis vraiment la pire personne parce que la semaine dernière, je suis passé sur le stream de Albatros, puisqu'effectivement, elle est streameuse. Elle va vous en parler tout à l'heure. Et moi, comme un connard que je suis, tu veux les questions des trucs. Et en plus, elle m'a dit oui, je veux les questions. Et j'ai dit mais ouais, mais pourquoi je pose la question sachant que je n'aurai jamais le temps et je ne penserai jamais à préparer mes questions et que tout va se faire au dernier moment.
Mais tu me l'aurais dit, je te l'aurais fait plutôt.
Moi, tu fais déjà la review, j'allais pas te demander.
Non, c'est pas moi qui fais la review, c'est Sophie.
Oui, mais tu fais la review de Civil War.
Ah oui, mais moi j'avais d'autres choses à préparer aussi.
Effectivement.
Bon, vas-y, James.
Donc, je vais poser mes questions qui seront complètement improvisées. Je suis désolé.
C'est parfait. Mes réponses le seront tout autant.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est les mêmes que d'habitude. De toute façon, tu les connais pas par cœur.
Oui, mais du coup, c'est il y a une petite subtilité. Et tiens, d'ailleurs, j'en profite parce que souvent et notamment Titou Peinture, je pensais, je sais pas si t'écouteras, mais peut-être que t'écouteras et que tu viendras me le dire. Souvent, j'invite des gens dans l'émission et on me dit mais pourquoi t'invites des gens qui n'ont rien à voir avec le comics ou qui, comme Albatros, en lisent parce que quand j'en ai parlé, elle m'a dit ah bah j'ai lu juste Transmétropolitan.
J'en ai lu d'autres, mais oui.
Ouais.
C'est déjà pareil parce que moi, il est sur ma palle depuis très longtemps et j'ai toujours pas lu. Hein, c'est...
Ouais, tu peux t'en passer.
C'est pas une grande perte.
On
peut oublier Warren Ellis. Merci. Mais du coup, avant de poser les questions, moi j'aime bien proposer à des gens qui ont pas du tout, qui connaissent pas l'univers du comics, parce que ça permet d'avoir un œil neuf sur le médium. Et potentiellement peut-être que une fois qu'elle aura lu donc Horizon Oblique, elle se dira en fait il y a peut-être plein de trucs super cool en comics que je connais pas et que je pourrais découvrir. Ah oui, c'est vrai que t'as pas trop aimé, mais bon. Peut-être que les recommandations ou les Spades, je suis sûr qu'il a noté plein de, enfin où il connaît, parce qu'il improvisera plein de trucs qui nous feront penser à Horizon Oblique ou qui ont peut-être s'il y a des comics mieux dans cette thématique et qu'on te donnera envie de lire ou pas. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant. Je prends un peu l'exemple que j'avais avec Léna qu'on avait avant. Léna, quand elle a commencé l'émission, je crois qu'elle avait lu aucun comics de sa vie. Et au final, elle en a lu petit à petit. Et maintenant, vous voyez, elle fait même des émissions à côté qui parlent de comics en dehors de Comics Discovery. Donc elle a kiffé et du coup ça ouvre les c'est comme ça, une par une petite, je pose des petites graines et au final tout le monde lira du comics et nous serons plus ces 4% de lecteurs
En fait c'est comme moi avec Taylor Swift, tu vois, petit à petit je fais découvrir.
Moi j'essaie avec Cannibalisme, ça a beaucoup moins de succès.
Attends, j'ai pas parlé encore du traitement des peaux, oublie ou pas.
Oui, c'est vrai.
Écoutez, we have to go back.
Donc, Alba, est-ce que t'as comment t'as découvert les comics ? Est-ce que t'as des souvenirs des premiers comics que t'as lus ? Et puis après, tu peux enchaîner sur la BD je sais pas si tu lis beaucoup de BD.
Je lis quelques BD, quelques comics, mais mon premier comic c'est Transmétropolitan, hein, vraiment le premier comic que j'ai dévoré c'est celui-là, quand j'avais 18 ans, 19 ans, que je faisais mes études de journalisme, parce que...
Ah bah oui, forcément.
Bah oui, forcément, c'est pour ça. En fait, j'étais une grande fan d'Hunter S. Thompson, parce que je faisais partie de ces journalistes, journalisme immersif, gonzo, changeons le monde, brûlons les... Enfin bref. J'avais 18 ans et des idées. Du coup, j'ai lu Transmétropolitan sur les conseils d'un ami. Et je sais pas, le pied de chaise de la vérité, ça m'a transcendé. Enfin, les gars, j'étais en mode, je veux faire du journalisme, mais pareil, je vais être provoqué. Donc, en plus, j'aimais énormément le côté politique du comics. Donc, j'ai vraiment commencé avec Transmet. Je connaissais pas Warren Ellis. En plus, j'aimais bien le fait qu'il s'était inspiré d'Hunter S. Thompson, etc., dans les refs. Je l'ai relu quelques années après et j'ai toujours aimé, hein. C'est affreux, hein,
mais il écrit bien, hein. C'est pas ça le problème avec Warren Ellis.
Le problème c'est Ellis, c'est pas transmettre.
C'est ça. Ah oui. Et du coup j'ai commencé avec ça, enfin avec ce comic là, et j'ai essayé d'autres comics quand on parlait comics, c'était pour moi c'était DC, Marvel, etc., et l'univers m'a toujours un peu impressionner fait peur. Du coup, je me suis jamais trop essayé et j'ai tenté d'autres comics. Par exemple, j'ai un souvenir d'un comic avec des dieux de l'Olympe et de la musique. Je sais pas si ça vous parle. C'est ça. J'avais acheté le tome. Bah, j'avais pas accroché plus que ça au tome 1. Du coup, c'était
Je pense que pour aimer, il faut vraiment être fan de musique, de rock and roll et de mythologie, je pense, parce que tu vois des indices si tu connais des trucs et tout, et si tu connais pas, je pense que tu dois dire ah c'est juste un truc sur les fans et l'art, qui est déjà un point de vue intéressant, mais l'aspect mythologique va se développer plus après ensuite.
Bah j'avais pas accroché des masses. Après en BD. J'étais très, j'avais beaucoup lu Torgal quand j'étais petite, grosse fan de Torgal. Je crois que j'ai commencé avec Torgal, Aldébaran, les mondes d'Aldébaran, énormément. Donc ça, j'ai toute la série, après les spin-offs, survivants, tout ça, beaucoup aimé. Après roman graphique aussi, tout ça. Là, dans ma page, j'ai Il brûle qui a l'air d'être un banger, mais j'ai toujours pas ouvert.
C'est trop bien, Il brûle, pardon.
Non, mais voilà.
C'est trop bien.
À chaque fois, je mentionne ça et on me dit c'est trop bien et tout. Et il est littéralement dans ma bibliothèque juste derrière. Et je sais pas, je me dis il faut un mood, tu vois. Je sais pas quel mood il va me falloir, mais il faut que je lise. Donc voilà, la BD. Mais c'est toujours quand on me demande ce que je lis que j'arrive pas à retrouver les noms. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hein, genre, et toi, t'aimes quoi en BD? Je sais plus, mais j'en lis, mais je sais plus. Attendez. Ah non, ils sont pas là mes livres. Ils sont encore
c'est
dans
pas grave, c'est pas grave.
Donc voilà.
Mais du coup, ton habitude, ton lien un peu avec la pop culture et avec c'est plus la littérature ou le
et bah mon lien avec la pop culture, déjà c'est surtout je pense tout ce qui est monde de l'imaginaire. Beaucoup de séries, beaucoup de films, beaucoup de romans, beaucoup de mangas, beaucoup d'animés, beaucoup de jeux vidéo. beaucoup d'internet.
C'est marrant quand je te parle de BD, tu mets pas le manga dans le. Enfin, moi, pour moi, ça l'est toi.
Ah non.
BD, manga, ok.
Enfin, c'est BD, comic, manga, ouais, non, je mets pas parce que des mangas, par contre, ça j'en ai lu, hein, j'en ai. Pouf. J'en ai lu énormément de GTO et.
Bah vas-y, si t'as des mangas que tu kiffes, pour donner un peu le.
Je pense que Monster,
ça tu aimes.
Monster, c'est un univers assez incroyable. L'attaque des Titans a été en 2012, l'animé, la saison 1, ce Wit Studio était incroyable. J'ai un peu moins aimé quand c'était MAPPA. et là, je sais pas, dans mes derniers coups de cœur, j'ai redécouvert un peu le shonen avec Jujutsu Kaisen. J'avais longtemps arrêté parce que c'était un peu toujours comme des, ça se répétait tout le temps. Et avec Jujutsu Kaisen, j'ai trouvé que ça apportait vraiment un vent frais. Donc je m'y suis remise. Genre petite figurine de Gojo, tout ça dans le décor du stream qui se cache régulièrement. Sinon, Naruto, hein, j'ai grandi avec Naruto. Genre vraiment, quand ils ont commencé à avoir des enfants, j'ai fait « Ouais, je suis vieille !» J'ai fait « Ouais, Sakura, elle est maman, je pourrais l'être aussi !» Ah là là.
Ça m'a fait ça quand j'ai découvert Sangohan à l'époque.
Je pense, ouais. Je pense que je vis avec Naruto ce que d'autres générations ont vécu avec Dragon Ball. Ouais.
Mais t'étais ado pendant Dragon Ball Z, tu m'étonnes, Spades.
Mais non.
Ah oui, mais bon, moi j'ai connu Son Goku quand il était tout enfant. Puis oui, de voir arriver avec peut-être 5-6 ans après avec un fils, ça te fait un choc, quoi. Donc.
Le pire, c'est à la fin de Dragon Ball Z quand tu vois qu'il est grand-père, Son Goku, c'est. Oui, tu dis merde, le truc qui a passé.
Non, ça c'est dans GT. Ça n'existe
non,
pas.
Non, 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 tu la vois à la fin de Dragon Ball Z. À la toute fin dans le dernier épisode. C'est pas dans GT que tu l'as découvert.
Non, c'est marron que tu vois.
Hein ?
C'est marron que tu vois la fillette que tu vois.
On redigrait ses enfants.
Non, non, il y en a une qui est la fille de.
C'était
qu'elle
Albatros,
pas
le sujet,
en tout cas,
c'était
y a
pas,
les grands-pères.
C'est pas Dragon Ball.
Ah, j'ai le manga donc.
Et du coup, pour le. On parlera un peu plus longtemps tout à l'heure de ton lien avec la pop culture et de ce que tu aimes, tout ça, tout ça. Mais pour expliquer un peu ce que tu fais, du coup, tu es autrice, tu as deux romans en cours en ce moment. Et donc, tous les après-midi, tu proposes de travailler avec les gens. Est-ce que tu peux un peu expliquer un peu le concept de
tout à fait.
Streams
J'écris des livres et je travaille en tant que freelance aussi pour le jeu vidéo, pour dans la communication de marque, dans le storytelling, etc. Comme tout le monde, hein, je procrastine, hein, genre vraiment. J'ai beaucoup du mal à m'y mettre et j'ai commencé à streamer donc les après-midi pour proposer aux gens de travailler avec moi. Donc je mets du lofi, de cover, de musique, on fait du pomodoro où on travaille 30 minutes, on fait une pause de 5 minutes. L'idée c'est de proposer un cadre où on avance un peu sur nos projets, le chat et moi, on se motive, on s'entraide aussi. Par exemple, cet après-midi, j'avais une viewuse qui a demandé des conseils pour faire de l'auto-relecture. Et quelqu'un du chat a dit « Essaye de faire ça à voix haute ». Et elle est revenue après, elle nous a dit « Ah ouais, top, trop bonne idée, ça a fonctionné, tout ça ». Donc vraiment l'idée c'est de se motiver entre nous parce que quand on bosse, par exemple quand on est étudiant et qu'on a un mémoire à faire et qu'on est tout seul, c'est galère. Quand on est freelance et qu'il faut se lancer, c'est galère. Ou même parfois j'ai des personnes qui sont au chômage, qui font leur CV ou qui essayent d'avancer sur des projets et du coup c'est vraiment pour l'idée de rompre la solitude quoi. Donc le principe du stream. Et donc ça alterne moment de détente, moment de focus et moment vraiment on va papoter, faire les idiots quoi.
Et d'ailleurs c'est trop cool, moi ça m'a aidé à bosser sur plein de trucs, donc n'hésitez pas. Merci. À passer sur le stream. Et j'ai pas mis le lien de côté, je sais pas si t'as le lien, si tu peux le mettre dans le chat.
Hop, j'ai oublié le chat. Du coup, c'est twitch.tv/albatros, donc albatros avec, mais pas avec un E et zéro, parce que albatros était déjà pris. Donc oui, albatros, albatros zéro.
C'est albatros.
Oui, avec un E, albatros avec un E et zéro.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Hop, je vous l'affiche comme ça, vous l'avez en petit. Donc on parlera un peu plus avec toi tout à l'heure, mais là on va s'intéresser à autre chose puisque cette semaine, paf, hop, voilà, je vais enlever ça.
Et moi je me suis abonné entre temps.
Moi aussi.
Quoi?
Je me suis abonné entre
temps. Même si je suis pas sûre du de travailler avec par exemple il y a des gens qui adorent écrire dans des cafés. Et moi, j'ai besoin d'être genre zéro son, zéro distraction autour de moi. Mais
ça, ouais. Moi, en général, je mets des séries ou des films ou Taylor Swift.
Alors moi, je fais ça, mais quand c'est des trucs chiants, genre faire les impôts, j'adore faire ça, regarder une série, tu vois.
Ah oui, c'est toujours chiant, les impôts.
Genre, non, mais Faye, elle fait du montage en matant des séries. Je sais pas comment elle fait.
Non, mais
elle monte.
Non, mais je mets le son très bas et je le sens fort dans mon casque.
Ah non, moi je monte aussi avec des séries en fait, ou des films, ça me dynamise dans le montage, je trouve. Sinon je suis attends, ouais. Ça fait un truc
c'est vrai que ça motive de ouf.
Ah moi je peux pas, je focus direct sur l'autre truc.
Mais moi j'y peux rien, faut que j'ai plusieurs trucs ouverts.
Après ça dépend où t'en es du montage. Je trouve que pour les ours ça marche, après quand c'est sur la finition vaut mieux être concentré sur le montage.
Ah oui oui, là je suis pas encore sur la dernière touche, là c'est j'enlève les trucs qui vont pas.
D'ailleurs, en parlant de montage, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais il y a un épisode de Billy Discovery qui est sorti. Je l'ai sorti cet après-midi, mais exprès pour en faire la promo. Donc, on vous a parlé de Journal de Fabrice Snow. Si vous connaissez pas Billy Discovery, c'est l'émission la petite sœur de Comedy Discovery où on parle de franco-belge. C'est avec Diane que tu connais, Alba, puisque c'est une des vendeuses, enfin une des libraires. De Easter Egg, il y a Judas qui anime l'émission, Julien, Marion et moi, et l'épisode de cette semaine, enfin de l'épisode qui est sorti aujourd'hui, il est vraiment très très bien. Je me suis un peu fait violence pour le monter, donc normalement le montage est bien. N'hésitez pas à me faire des retours vraiment j'ai adoré faire cet épisode donc n'hésitez pas à aller l'écouter même si la thématique donnera peut-être pas forcément envie parce que l'autobiographie tout ça c'est moins vendeur que un truc de SF ou un truc Marvel ou DC, mais n'hésitez pas à aller écouter, il y a plein d'autres recos de trucs cool autour de ça. L'épisode est vraiment très cool, l'ambiance est vraiment très bien, donc allez écouter l'épisode. Mais on va revenir sur la review. Donc cette semaine dans Comics Discovery, on vous parle de Horizon Oblique de Richard Blake, Et c'est Sophie qui va vous en parler. Je te laisse la parole, Sophie.
Oui, alors, c'est paru chez Urban Comics et c'est scénarisé et dessiné par, comme tu disais, Richard Blake. Donc, Richard Blake, qui c'est un artiste qui a étudié la peinture et le graphisme et vraiment une orientation très peinture puisqu'il a même exposé à New York et ensuite il s'est intéressé aux comics et Horizon Oblique et son premier roman graphique. D'après ce qu'il dit, il a commencé à le travailler au dessin et au pinceau avant de se dire que finalement les outils numériques c'était super et que ce serait plus utile dans son projet. Vous avez d'ailleurs tout le détail de son travail, de comment il a travaillé sur l'œuvre à la fin puisqu'il y a une interview de l'artiste qui vous permet d'en savoir plus. Et c'est toujours cool quand il y a un petit bonus à la fin d'un comics, je trouve. Voilà. Alors, que raconte Horizon Oblique ? Eh bien, c'est l'histoire d'un couple de cartographes qui partent étudier des mondes découverts dans ce qu'on appelle la passerelle, qui est une espèce de passage qui mène vers d'autres mondes qu'on suppose parallèles, mais c'est assez vague, en fait. Et le problème, c'est que ces mondes se détruisent, se reconstruisent au fur et à mesure, et que cet univers est totalement instable. Et du coup, bah, la connexion est perdue avec le couple. Et du coup, bah, de l'autre côté, ils savent pas ce qui leur est arrivé. Donc, ils décident d'essayer d'envoyer des intelligences artificielles. Mais pareil, le lien se coupe. Et en plus, ça coûte cher les intelligences artificielles à concevoir. Donc, du coup, ils décident en fait que de lier une intelligence artificielle avec la fille qui a grandi de ces cartographes et de vraiment de tisser un lien puissant qui pourrait leur résister à l'instabilité de la passerelle. Et du coup, ce duo de personnages assez particulier va évoluer dans cet univers particulier. Voilà. Et on est dans un peu de la, on pourrait dire de la SF un peu conceptuelle qui apporte un côté assez assez poétique, je trouve. Déjà grâce au graphisme apporté par l'auteur, qui ont vraiment le dessin de la manière dont ça se désagrège, dont ça apparaît les éléments. Il y a un côté très poétique, la manière dont les visages sont dessinés. Le fait qu'il ait un passé de peintre, ça se sent, je trouve. Parce que sa manière de composer et de mettre en scène les éléments, je trouve que ça fait très peinture en fait. Et c'est un truc que j'ai apprécié. Bon, moi, vous me savez, à force, je préfère quand c'est bien dessiné que quand c'est bien écrit. Vraiment, enfin, ça, je vais vers la bande dessinée pour voir du dessin avant tout et du graphisme. J'ai pas choisi le cadre et la lumière au cinéma pour rien. Hein. Voilà. Évidemment, l'écriture, c'est important, mais moi, ce qui me transporte en premier lieu, c'est les dessins. Et là, franchement, ça a bien matché. Et ensuite, je trouve que dans l'écriture et surtout dans la mise en page des aventures, il y a un côté très poétique parce qu'on a du coup un duo de personnages qui se battent dans des décors vides. En train de se déconstruire ou de se construire et on n'est jamais trop certain de où ils sont, de ce qui se passe et en fait il y a une structure pour moi qui est celle du conte de fées, quoi. C'est-à-dire que c'est un enfant au début puisqu'on est plutôt du point de vue de la gamine qui perd ses parents et qui ensuite va partir dans un monde inconnu et étrange et effrayant avec un compagnon insolite à la recherche de ses parents. C'est vraiment une structure, je trouve, de conte de fées. Et la manière dont c'est dit, bah, ça raconte en fait une enfant qui est en train de grandir et comment tu te reconstruis sans tes parents, comment, de quel, enfin, le fait qu'elle choisisse d'aller dans ce monde, finalement, c'est un peu, elle suit la trace de ses parents, mais elle est différente, elle s'est construite aussi différemment avec cette perte. Et du coup, bah, ça raconte quelque chose d'assez intéressant. Notamment j'ai trouvé dans une scène qui se passe dans une simulation en Italie où il y a une espèce de spectre qui apparaît sans cesse et de perception qu'elle a où ça ne peut être que dû à cette déchirure d'avoir perdu ses parents et voilà, moi ça m'a plu parce que j'aime bien les contes de fées et j'aime bien tout ce qui est poétique. J'aime bien quand c'est un peu déprimant un récit. Voilà, et ça c'est un peu voilà, après c'est assez conceptuel donc j'avoue que moi qui ai l'habitude de faire deux choses en même temps, là j'étais en train de marcher, d'écouter la musique et lire le BD et mon cerveau a fait, là ça fait trop, t'arrives plus à suivre l'histoire, donc le côté un peu décousu fait que ça peut je peux comprendre que ça déplaise parce que c'est pas forcément évident au premier abord. Moi, ça m'a rappelé un peu la BD franco-belge de SF, de manière générale, où il y a des univers un peu, voilà, des univers très poétiques et qui te transportent par les images et par une histoire qui est pas forcément très très construite et très aboutie. On va plutôt te suggérer les éléments et toi, ton imagination de lecteur va s'en emparer et va aller encore plus loin. Et si vous aimez ça, je pense que Horizon Oblique vous plaira. Par contre, si vous êtes plus hard SF en aimant d'avoir des trucs vraiment très détaillés l'univers, là vous n'allez pas forcément trouver votre content. Alors moi, le seul hic, c'est la fin, que j'ai trouvé un peu en suspens, et il s'avère que l'auteur compte faire deux autres volumes, donc c'est pas vraiment une histoire finie pour lui, même si c'est vendu un peu comme tel, parce que c'est pas dit qu'il va y avoir une suite. Enfin, c'est pas présenté comme s'il y avait une suite. Après, je comprends en termes d'édition, il y a beaucoup d'éditeurs qui aiment bien lâcher le premier tome et se dire c'est une histoire qui fonctionne, parce que on sait pas si, en gros, en général, c'est selon les ventes qu'il y aura la suite, va être faite ou pas. C'est pour ça que t'as certains auteurs d'ailleurs qui sont fait un peu bâcher sur les réseaux, qui conseillaient de quand on aime un auteur de et qui fait une saga, de quand même acheter les volumes, même si tu sais pas si la saga va sortir en entier, parce que moins de gens en achètent les volumes, plus il y a de chances que la saga ne sorte pas en entier. Hein, voilà. En termes d'édition, c'est l'édition de comics comme de bouquins, c'est un marché, c'est une industrie, et il faut que ça fonctionne, quoi, mine de rien. Moi, en tout cas, ça m'a donné bien envie, et j'avoue que je suis assez curieuse de voir la suite.
Eh ben, merci beaucoup, Sophie. Je vais te rejoindre sur beaucoup de points que tu as nommés. Moi, ça m'a fait un bien fou de lire un truc comme ça. Après, les trucs qu'on s'est tapé la semaine dernière et même la semaine d'avant.
Ça fait quelques semaines qu'on se tapait des trucs pas ouf.
Ouais, j'avoue. Entre Doctor Who, Power Rangers, de venir un truc un peu conceptuel, un truc avec un imaginaire un peu plus original et un peu plus. Fouillis, ça fait du bien. Au niveau du scénario, j'en ai un peu parlé avec Alba tout à l'heure, elle me disait que, bon, je vais pas spoiler ce qu'elle disait, mais elle a effectivement, c'est scénaristiquement, bon, ça, c'est pas ouf, mais moi j'ai un peu voyagé, ça m'a fait voyager. Je trouvais que c'était très beau, il y avait un côté très poétique, très mélancolique. Et j'ai kiffé, ça m'a fait du bien. Donc rien que pour ça, je trouvais que le titre était beau. Effectivement, c'est très 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 esthétique, mais ça fait du bien des fois, hein, des petits titres comme ça. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Faye.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé également. Alors effectivement, le scénario, ça va rien révolutionner, mais je trouve que l'univers fonctionne plutôt bien. Visuellement, c'est très beau. Je disais à James, l'architecture des bâtiments, moi ça m'a fait penser un peu au jeu vidéo Fez. Alors je précise jeu vidéo parce que quand j'ai dit à James, ça m'a fait penser à Fez. Il a pensé à Z70 Show.
Oui, je sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi. Écoutez,
j'ai essayé de faire des liens entre Fez et.
Enfin bref.
J'étais dit au revoir.
Voilà, apparemment il y a un perso qui disait non, je sais pas. Non, mais je trouve l'univers intéressant. Alors effectivement, je te rejoins aussi sur le côté un peu mélancolique de ce truc. Il y a des moments où j'ai pensé à l'histoire sans fin, parce que t'as des moments où il y a des paysages un peu qui se désagrègent, donc j'ai pensé au néant dans l'histoire sans fin. Donc je vous plante un peu l'ambiance du truc. J'ai bien aimé le perso de la petite fille au début, qu'après on suit adulte, qui est avec un robot. J'aime bien la chimie entre les deux. Je les ship, écoutez, voilà. Non, mais je trouve que ça fonctionne bien, et j'ai vraiment envie de voir la suite, parce que je trouve le propos intéressant. Le rapport aussi entre justement l'héroïne et ses parents, je trouve ça aussi intéressant. Je pense qu'il va sûrement y avoir quelque chose autour du deuil. Je pense. Écoutez, je vais pas m'avancer, on verra bien. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt contemplatif, mystérieux. Et effectivement, la fin, je me suis dit, j'aimerais bien avoir la suite. Je suis un peu restée frustrée, donc j'espère qu'on aura la suite. Voilà.
Moi, ça m'a fait penser un peu à Carbone et Silicium de.
Je suis assez d'accord avec toi sur ce point.
Ouais. Donc, si vous avez aimé et que vous avez envie de pousser le. Albatros, si t'as pas lu Carbone et Silicium de Mathieu Babelais, si je dis pas de bêtises.
Ah bah c'est très beau, devrais, et puis tout le propos autour justement de des robots, de l'intelligence artificielle est hyper intéressant, je trouve plutôt bien traité.
Il est dans ma liste.
Et ben voilà. Bah écoute, prends le temps de le lire, te presse pas, et tu nous diras ce que t'en auras pensé.
Bah du coup, tu vas garder la parole. Donc, j'ai eu droit à un petit retour tout à l'heure.
Alors,
vas-y.
Alors, il est très beau. On va commencer là-dessus. Le gars, franchement, en vrai, il est beau. Le livre est beau. Je pense que le livre objet doit être incroyable. Les dessins sont fabuleux. Le problème pour moi, c'est le scénario, parce que du coup, j'étudie la science de la narration. J'écris des livres et je suis un peu une grosse nerd de la science de la narration. Et dès le début, j'ai vu que ça souffrait un peu c'est un peu le ghiblish, de la SF, c'est-à-dire qui sort des grands concepts, des idées et en SF. C'est à mon avis ce qui fait qu'on peut avoir un peu du mal à accrocher quand il part dans des grandes explications de choses qui n'ont pas vraiment de sens ou compliquées, et du coup on doit se concentrer, s'arrêter, et ça c'est pas très amené simplement. Et j'ai trouvé, moi je m'attendais à une histoire au début, et c'est pas exactement la promesse qui est faite quand on lit les premiers chapitres, enfin les premières pages. Du coup j'étais un peu en mode ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. La promesse narrative n'est pas là, et aussi il souffre énormément dans les dialogues du symptôme du on explique les choses pour le lecteur à des personnages qui sont censés savoir ce qui se passe. Et ça c'est un peu le truc de débutant quand on écrit, c'est qu'on va utiliser les dialogues pour faire du world building, pour expliquer des concepts, etc. Parce qu'on sait pas trop où les mettre, et surtout en BD c'est extrêmement dur. Donc plusieurs fois j'ai trouvé que les personnages se disaient des choses qu'ils sont censés connaître. Enfin les gars, vous bossez sur un truc de ouf, me dites pas que vous êtes incompétent au point de vous réexpliquer les bases. Donc ça avait tendance à me sortir un peu. Du coup j'étais un peu avec des un peu comme un chat dans la BD, genre les moments je rentrais dedans, parce qu'en plus de ça j'adore les thématiques robot petite fille, genre c'est, j'ai écrit une nouvelle dessus, ça sera sûrement mon prochain roman, c'est le robot, et j'ai écrit un recueil de nouvelles autour des robots et autour de la figure de la petite fille, et donc j'étais méga hypée. Et il y avait des moments où je retrouvais ce côté très attachant des personnages. Parce que il y a de la maladresse, mais il y a de la tendresse pour les personnages qui sont qui ont ce côté un peu naïf, je trouve. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas été accompagné d'un scénariste plus expérimenté pour vraiment rendre hommage aux idées, aux personnages, à la qualité de dessin, etc. Voilà. Genre, c'est un oui, mais...
Bah c'est bien d'avoir voilà. En plus des arguments dans ce que tu apportes, donc je trouvais c'est très cool. Et toi Spades, est-ce que tu es plus team Sophie ou team Albatros?
En fait c'est moi qui ai proposé de lire le titre à la base.
Oui, c'est vrai.
C'est un titre que j'avais déjà lu en VO. Et pour revenir sur ce que disait Sophie, en fait c'est publié chez Image, et Image c'est pas eux qui te payent pour produire tes bouquins, c'est en fait eux ils vont se payer sur les recettes que tu fais, et tu récupères en fait tout l'excédent, on va dire. C'est donc si t'as de l'argent tu peux sortir autant de titres que tu veux chez eux. Ils s'en foutent. C'est un fonctionnement très étrange, Image Comics. Mais donc en fait pour ce titre là je vais dire que en fait c'est un titre, tu vois que c'est une première œuvre. Graphiquement ça défonce vraiment, c'est j'avais pas lu un comics aussi beau depuis au moins Monstress de Marjorie Liu et Sana Takeda, que je te recommande Sophie, tu devrais aimer, c'est un truc avec des monstres qui penchent des gens ou pas peut-être.
Ah je confirme Sophie, tu devrais aimer, moi j'aime beaucoup. Ouais.
C'est vraiment très bien et c'est super beau. Et là, en fait, on voit que c'est un comics de graphiste, parce que vraiment, chaque plan, chaque case est vraiment étudié et travaillé. Il sait ce qu'il veut raconter à travers ses enchaînements de cases. Mais comme dit Albatros, on se rend compte en fait qu'il ne sait pas exactement ce qu'est de la BD au niveau de la mise en place des dialogues.
Après, moi, ça s'est passé quand même. J'ai fait abstraction de ce défaut-là parce que voilà, c'est une première œuvre et je suis intéressé par voir ce qu'il va faire par la suite, comment il va prendre ça. La ressemblance avec la BD européenne, notamment, ça fait très très métal hurlant dans l'esprit. Là, avec le volume de Urban, on découvre en fait qu'il s'est qui était très très fan des Cités Obscures de Suetone Peters. Et effectivement, oui, une fois qu'il dit ça, c'est évident quand tu lis le titre. Et d'ailleurs, on a une interview croisée de Suetone et Blake dans le volume. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment non seulement le monde se désagrège au fur et à mesure, mais même la temporalité, en fait, elle est complètement éclatée. Il y a un temps délétère, en fait. Et ça m'a évoqué en fait les grands récits de fantasy et de science-fiction d'exploration. J'ai pensé à Rama de Arthur C. Clarke, où la découverte d'un vaisseau qui vient à travers le système solaire et la visite de ce vaisseau-là, ou même carrément aux montagnes hallucinées de Lovecraft, où qui quand même raconte juste la balade de quelques types dans une cité des anciens, et sans forcément atteindre au niveau d'excellence de Rama ou des montagnes hallucinées. Ouais, il a du potentiel, hein, ce petit Blake, hein. Je serais curieux de voir ce qu'il va faire par la suite, mais oui, il faut qu'il prenne vraiment des recommandations auprès de scénaristes plus chevronnés pour comprendre comment mieux structurer son histoire. Mais je pense plus qu'il faudrait qu'il vienne voir du côté européen que du côté US.
Ouais. Oui, si je peux, enfin, pour revenir sur le scénar, je veux pas tout démonter, hein, genre il est c'est lisible, etc. C'est juste qu'il y a un goût de ça pourrait tellement mieux. En fait, ça pourrait être vraiment un chef-d'œuvre en vrai, hein. Vraiment. Et j'ai un petit goût de
d'insatisfait, ouais.
Ouais, en fait, parce que moi, c'est tellement ça aussi. Beau. C'est dommage.
Au niveau du scénario, enfin en tout cas la manière dont l'écriture des cases. Les petites explications qui sont un peu touffues, moi ça m'a rappelé les vieilles BD, quoi, les Black et Mortimer, où il y avait vraiment des trucs un peu touffus et des complexes où tu fais waouh, t'es peut-être pas obligé de donner autant d'infos tout d'un coup, quoi. C'est un peu assommant et c'est une manière d'écrire qui, en fait, il y avait un peu avant et qui a disparu, je pense, aujourd'hui, qui est devenue beaucoup plus fluide, parce que effectivement il y a beaucoup plus de développement, comme tu disais, de théorie de l'écriture, etc., et qu'aujourd'hui on est un peu en train de déconstruire ce mythe de l'écrivain, normalement il arrive, il vient et il sait déjà tout faire. Non, c'est pas comme ça en vrai. Et je pense que ouais, il y a peut-être le côté premier bouquin aussi, effectivement, c'est rien fait d'autre avant. C'est
parce que vraiment,
comme il le dit lui-même, en fait, il s'est basé sur des images qu'il avait dans sa tête, et c'est vraiment en fait un livre qui se regarde plus qu'un livre qui se lit. Vraiment, à chaque page, te hurle, regardez, c'est super beau.
Mais en fait, c'est limite, tu vois, comme si c'était des petits tableaux. Et donc, il y a, dans les défauts, je dirais qu'il y a des fois un côté un peu figé qui fait que ça oblige à côté d'avoir trois tonnes d'explications. Alors que s'il avait un peu changé la mise en scène, peut-être faire quelque chose d'un peu plus actif dans les gestes, dans quelque chose, il aurait pu peut-être, par l'image, donner des infos.
Je pense que son atmosphère qui est particulière, qu'on a aimé, le côté poétique, etc., le côté conte de fées, etc., vient aussi de ce côté un peu figé et pas ce côté actif que tu peux avoir dans la BD, enfin le classique comics, quoi, avec des gestes et des mouvements, parce que là c'est une histoire plus posée au final de gens qui rêvent au final, quoi, tu vois.
Peut-être dans la mise en scène, tu vois, les petits bonhommes des cas, je sais pas, faire quelque chose, j'en sais pas, pour essayer un peu, parce que c'est vrai que je vous rejoins qu'il y a des fois effectivement des choses maladroites dans le texte, surtout au début. Et j'avais un peu peur, mais heureusement, je trouve que les personnages permettent de sortir de ça et de rester accroché, parce que effectivement on sent qu'il y a du cœur dedans, on a envie d'être avec eux, on les aime bien, enfin moi je les ai trouvés un peu cute et tout, et ouais. j'étais bien dedans, mais c'est vrai que des fois c'est dommage effectivement d'avoir des grosses
le truc est un peu en deux temps, il y a tout le moment où avant qu'ils rentrent dans la passerelle, et c'est au moment où moi je trouve, je sais pas si Albatros va être de mon avis, du coup, vu que c'est elle qui avait le plus de problèmes avec la narration. Mais je trouve que quand ils sont partis qui commence vraiment l'exploration, ce côté un peu explication un peu too much,
en fait il a souffert de deux trucs, du syndrome de l'auteur débutant qui a envie de tout mettre le lore de son univers incroyable dès le début et de tout expliquer au lecteur pour être sûr que le lecteur comprenne bien, et il a eu le problème aussi des auteurs de SF qui veulent pas être confondus avec de la fantasy, donc qui se sentent obligés de mettre plein de concepts hyper complexes pour regarder c'est de la SF pas du fantastique. Et en fait, en SF, quand on écrit, si t'acceptes le moment de dire que tu fais pas de la hard SF, c'est pas grave si ça ressemble à de la magie, ça reste de la science-fiction. Si on prend la définition très large de la science-fiction, tout n'a pas à être Asimov. Genre, je pense vraiment, c'est un peu le problème de beaucoup d'auteurs de science-fiction qui se lancent là-dedans et qui complexent et qui veulent faire de la hard SF pour être crédibles, parce que la science-fiction a cette aura un peu de crédibilité scientifique, là où le fantastique a ce côté un peu plus imaginaire, littéraire, ça, que s'il avait plus accepté le côté un peu conte de fées science-fiction, franchement, assumer ça, ça aurait été une dinguerie.
Déjà, pour moi, la première erreur qu'il fait, c'est de placer son histoire en 4000 et des brouettes, alors que temporellement et visuellement, ça ressemble à maintenant, quoi. Je pense qu'il l'aurait mis dans un futur proche.
Avec l'évolution actuelle des IA et des robots, en tout cas, ce que tu vois, par exemple, ce qu'ils font au Japon, où t'as des robots infirmiers. Hein. Je pense qu'en fait, t'aurais mis ça en 2050, ça passait.
Ouais, tout à fait. Mais le truc, voilà, c'est comme tu disais, tu parlais du Ghiblish tout à l'heure. C'est ça, il va nous sortir un pseudo-jargon scientifique qui fait qu'alourdir l'histoire. Après, pour la mise en scène.
C'est pas seul à faire. Hein. Ouais, il y a des réalisateurs qui font ça et qui ont je sais pas combien de millions d'entrées au cinéma. Donc,
Non. Et puis ça fait depuis l'origine de la SF que c'est comme ça. Hein. Quand tu lis dans les premiers bouquins, il vit à Zorglub au loin et tira avec son pistolet laser. C'est la même connerie, hein, voilà. Mais le truc, en fait, c'est qu'au niveau de la mise en scène, je suis pas d'accord avec vous. En fait, toute sa mise en scène, elle pose sur une idée de suspension et de cassure du temps. En fait, moi, ça m'a fait penser au mangaka Adachi, qui a fait beaucoup de mangas de sport, notamment Touch et compagnie, qui a ce délire-là, en plein milieu de l'action, il va te poser des cases qui vont complètement casser la temporalité, du genre t'as un match Touch qui est sur en français, le dessin animé c'était Théo ou la batte de la victoire, qui a un super manga et un super dessin animé et super vieux aussi comme moi. Donc
qui est ressorti
il y a pas longtemps, je crois, hein. Ouais, mais c'est génial. De toute façon, tout Adachi est génial, faut vraiment découvrir cet auteur si vous connaissez pas. En fait, en plein milieu d'un match de baseball endiablé, il va te mettre une image sur un poteau télégraphique, une deuxième image sur un oiseau qui passe, et ça casse vraiment, ça brise vraiment la temporalité du match, ça met un effet de suspension du temps, et c'est vraiment en fait ce qu'il a essayé de faire là, Richard Blake. Et franchement, je trouve que graphiquement, ouais, rien que pour le graphisme, ça vaut le coup, quoi. Faut vraiment y aller.
Après, ses défauts d'écriture, par exemple, moi je me suis dit, un truc tout bête qu'il aurait pu faire, c'est, vu que l'IA est en train de se construire, et que elle ne sait rien de cet univers, ils auraient pu passer toutes les explications à travers lui, tu vois. Mais bon, bref. En fait, je pense que le problème, c'est à mon avis la ligne éditoriale. Si Image, c'est un peu comme l'édition d'auteur à côté d'auteur, donc c'est-à-dire que c'est l'auteur qui donne son truc et qui donne l'argent pour le truc, c'est normal qu'il n'y ait pas de travail éditorial, qu'il n'y ait pas de retravail d'écriture.
C'est pas eux qui donnent l'argent. C'est en fait, Image va publier le bouquin. Mais toi, t'es pas payé tant qu'ils se sont pas remboursés sur leurs frais de production.
Ah oui, mais ça, tous voilà. Les éditeurs font ça, enfin, plus ou moins. Ils retardent vachement le temps de te payer tes trucs.
Parce que... Ah oui, non, mais là, c'est non, parce que dans le comics, chez DC ou Marvel ou Dark Horse, t'as un contrat. Tu travailles, c'est du work for hire dans la plupart des cas. Et là, vraiment spécifiquement Image, en fait, tu viens avec ton équipe créative. Donc là, il est tout seul, ça va d'autant plus vite. Mais si t'es scénariste, il faut que tu trouves toi-même ton dessinateur, ton coloriste, ton encreur, ton lettreur et compagnie. Tu vas faire la BD et eux, ils vont te la publier. Et une fois qu'en fait, ils ont rentabilisé le coût de production, toi tu commences à toucher des sous, et c'est pour ça en fait que souvent les 3-4 premiers numéros d'une série chez Image, en fait l'auteur il en voit pas la couleur, quoi, et c'est pour ça qu'ils te disent insister, parce que si ça marche là je vais commencer à être payé, quoi.
Ah, mais du coup, effectivement, si par contre c'est un système éditorial où tu dois arriver avec tous tes outils, c'est normal que effectivement, enfin, il n'ait pas eu de, enfin, normalement, un éditeur est censé relire, te faire une bêta lecture, etc. Enfin, c'est
là,
un travail.
Mais là, non, c'est vraiment, tu joues en creator round, tu te démerdes, quoi, réellement.
Ouais. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de travail éditorial, c'est normal qu'il y ait des problèmes d'écriture. Enfin, il y a des petits problèmes, quoi.
Ouais.
Eh bien, on a fait un peu le tour. On va, si on va plus loin, je pense qu'on va spoiler le titre et ce serait dommage. Mais bon, même si je vais le dire à chaque émission, à chaque fois que Spade sera là, on a un magnifique logo qui nous a été dessiné par Tito Peinture. Il est magnifique, ce logo.
Le micro est tordu.
Le micro est tordu. Mais c'est, ça
Où
va.
C'est le cœur qui est tordu.
Effectivement. Et Spades a dit qu'il ne mettrait jamais de coup de cœur, même si c'est lui qui est venu le cœur sur la main pour me dire lis Hexagon Bridge. Mais est-ce que tu mets un coup de cœur, même si c'est toi qui l'a voilà. il m'explose.
Non, c'est vraiment trop marginal pour pouvoir être proposé à en recommander à n'importe qui, quoi. C'est faut vraiment que le si vous aimez la BD européenne, si vous aimez la SF, si vous aimez les trucs bon, il se passe pas grand chose au final, mais vous allez être embarqué, vous pouvez le lire, mais je peux pas recommander ça à n'importe qui non plus, quoi.
Paye.
Non, je mettrai pas un coup de cœur. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Spade. Je le recommanderai pas non plus à n'importe qui. Mais si vous aimez la science-fiction, si vous aimez, oui, effectivement, ce côté très artistique dans les dessins et tout, ça peut vous plaire. Mais si c'est pas votre truc, vous préférez une science-fiction un peu plus bourrine ou une science-fiction un peu plus intellectuelle, peut-être vous ne rentrerez pas dedans. Mais moi, j'ai trouvé quand même que c'était un récit qui était plutôt sympathique et j'ai bien aimé l'univers.
Albatros, alors, coup de cœur, pas coup de cœur.
Ça aurait pu. Franchement, c'est ça qui me brise le cœur, c'est que ça aurait pu, parce que le robot et la petite fille, la dynamique est incroyable, c'est toujours très touchant, très poétique, mais les dessins sont magnifiques. Et franchement, si vous avez envie, je pense, d'une œuvre un peu délicate et maladroite, il y a quelque chose de mignon dedans. Genre, quand c'est un peu maladroit et délicat, une première œuvre, allez-y. Si vous voulez découvrir, je pense qu'il est prometteur, allez-y. Si vous voulez un truc plus vraiment un gros coup de cœur, non pas. Je pense pas, ce sera pas ça pour moi.
D'accord. Sophie.
Eh ben moi, oui, parce que comme je recommanderais des Dario Argento comme Opéra, par exemple, c'est magnifique, ça a pas de sens l'histoire, mais vraiment pas de sens. La fin est vraiment what the fuck. Je pense que ça partie de ces films qui ont été faits sous drogue, mais c'est tellement.
Oh bah sûrement.
Moi, je pense que l'art doit te faire voyager, doit t'emporter dans un autre univers, une réalité que tu n'irais pas, et surtout doit résonner avec ton imagination. Et ce genre d'œuvre ne peut que résonner avec ton imagination, parce qu'en fait, il y a du vide et des espaces, il y a du silence, et c'est quelque chose qui est tellement rare en art qu'il faut l'apprécier et le mettre en valeur. Donc coup de cœur, voilà.
Eh bien, comme je sais que de toute façon, si je mets un coup de cœur, il ne sera pas coup de cœur parce qu'il n'y aura pas du tout la majorité. Eh bien, je vais lui mettre coup de cœur parce que moi, j'aime bien prendre parti pour les losers, un peu entre guillemets.
Pour mettre en avant les artistes qui débutent, voilà.
Ouais, voilà.
Et qui ont du potentiel.
Comme ça, quand il sera hype et que.
On pourra dire nous deux, on y croyait. Enfin,
moi, j'en ai parlé et j'ai mis un coup de cœur sur Horizon Oblique. Je suis beaucoup plus hype que vous. Je suis un vrai cool kid. Je l'aimais depuis le début. Voilà. Donc voilà.
Dernier point. Moi, je l'ai lu j'avais lu le dernier numéro en écoutant du Angelo Badalamenti et ça va trop bien ensemble. Ah. Ah, c'est trop bien.
Ouais, je pense que ça doit être pas mal.
Et XP, arrête le bashing de Denis Villeneuve.
Il s'échauffe pour demain.
Non, c'est mais. Je vais finir par me vexer à force.
Ah oui, d'ailleurs, quand tu parles de demain, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais bon, je sais pas quand ça sortira parce qu'on enregistre ça demain soir avec.
Je sais même pas si c'est en live ou pas, elle m'a pas dit.
Bon, on verra bien. De toute façon, on a, avec Faye, on a été invité dans un podcast de Man of Steel et de la saga Snyder. chez les amis de chez Geek Squadron. Donc bah allez voir ce que font les gens de Geek Squadron, vous verrez s'il y a plein de trucs cool.
Je suis curieuse de savoir si vous avez trouvé du bien à en dire ou pas.
Et je rassurer, je pense pas que ça va le rassurer, je pense qu'il va s'en foutre surtout, mais je voulais dire à Spades que je faisais partie il y a fort longtemps des gens qui défendaient Man of Steel et qui disaient mais oui, c'est cette version là de Superman que moi j'aime.
Ah non, à ce point-là. Non mais tu peux dire le film est pas mal, mais dire que c'est ta version de Superman préférée, ça j'avoue.
J'en sais parti. Mais moi j'aime pas les films d'origine. J'aime pas les films de Donner, donc
le film, enfin le 2, ça dépend quelle version je lis.
Pas aimé Richard Donner.
J'aime pas Richard Donner, non.
Mais il aime pas l'arme fatale alors.
Non.
Attends, ça veut dire que t'aimes pas la malédiction.
Je l'ai vu il y a très longtemps, mais je suis pas très fan de Donner non plus, hein. Pas trop mon.
Mais qu'est-ce que je fais avec toi en fait?
Bon, enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que je pense, et peut-être que Space me contredira, mais que je disais oui c'est ma version de Superman, mais c'est parce que j'avais pas lu de Superman, parce que je pensais ne pas aimer Superman et j'en avais une vision éclatée et j'avais pas lu de Superman, et maintenant que je revois Man of Steel, en fait Snyder n'a rien compris à ce qu'est le personnage.
Il y avait un indice, toutes les autres adaptations de Superman allaient à contresens de ce que proposait Snyder, non, quand mais, même, y compris Smallville.
Au-delà de ça, en fait, Snyder apporte sa vision du personnage. Et Snyder, je trouve que sa vision est problématique. Déjà, sa vision de Watchmen, où tout est une... Dans l'esprit d'Alan Moore, tout est une critique du style super-héroïque devient en fait iconique chez Snyder, tellement il l'a pris au premier degré le comics sans comprendre le
pas
texte.
D'accord avec
si
toi.
Si ah si si je t'assure que si.
Fait, c'est une
apologie du virilisme le Watchmen de Snyder.
Il y a XP qui a dit dans le chat ce que je pense.
Oui, Faye elle a passé son temps devant le film à dire mais c'est un fasciste.
Mais tous ces films je me dis ça. Mais attends, Snyder, le gars qui a fait Rebel Moon.
Oui, moi mais... je pense qu'il est tellement amoureux de belles images, etc. Que
ah bon, j'aurais dit
que
son pénis,
quand le scénario de
Jésus,
Watchmen,
il est bon de Jésus.
Il suit celui du comics. Donc je pense que c'est vraiment la mise en scène qui contredit ce qu'il est en train de dire avec son scénario. Et tu fais mais. Bon, après, j'ai bien aimé parce que j'aime bien comédien. Mais
pour aller dans le sens de ce que disait Albatros, donc qu'il aime beaucoup son pénis, Rebel Moon, j'ai
essayé. C'est moi qui ai dit ça.
J'ai essayé de regarder Rebel Moon justement il y a deux semaines.
Ah, mais c'est horrible.
J'ai commencé le film, ça ouvre donc sur un vagin qui s'ouvre dans l'espace et il y a un vaisseau phallique qui passe dedans. Je lui fais, on va aller regarder autre chose.
Écoutez, j'ai un conseil, mais vraiment pour faire de Rebel Moon film 1 et film 2 un moment incroyable entre potes, faites un putain de bingo. Genre, vous prenez le bingo, avec tous les trucs de Snyder, ses marottes et tout, vous faites un bingo et vous finissez. La soirée,
ah non, mais il est cliché. En plus, tu dis, il a buté l'œuvre.
Bah, en fait, coup, moi, je pense que le problème de Snyder, c'est que. Parce que je trouve que ses premiers films étaient pas mal du tout. Et en fait, plus ça va, plus c'est une catastrophe. Et je pense que ça fait partie de ces réalisateurs qui. Plus tu l'encenses, plus il fait faire de la merde. Plus il va faire des trucs qu'il pense que tu aimes dans ses trucs précédents. Et il va en faire. Enfin, ça va devenir un espèce de déformation.
Non, je crois qu'on a juste eu tort d'aimer l'armée des morts à l'époque.
Non, je l'ai
refait. Oui, parce que quand tu le revois, il y a des choses qui vont pas. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de Jumpscare dessus, où vraiment j'étais assez d'accord avec leur analyse et des problèmes de Snyder. Voilà, écoutez. Mais par contre, le gros problème de Snyder, c'est quand il a commencé à vouloir gérer sa propre photo. C'est juste horrible. Vous voyez la suite là, qu'il a fait d'Armée des Morts sur Netflix, il y a déjà un gros problème. Il n'y a rien qui est droit.
On arrête la discussion de Snyder. Et on va finir sur
Snyder Machine.
C'est toi qui l'as lancé.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Mais en fait, on est en train d'ailleurs que t'as lancé toutes les digressions.
Oui, mais c'est toujours moi. Hein.
Mais c'est toi et après tu nous coupes, surtout moi.
Mais si vous faites un jeu à boire figure christique dans
ah, mais j'ai noté toutes les poses.
Vous finissez en chromatique, pas possible.
Pour moi, ouais, c'est pas tant que fascisme, hein, c'est plus il est fan de Jésus, il en met partout.
Ah oui, non, mais il en met partout, mais ça n'empêche pas d'être fasciste quand même. Hein.
D'un Jésus très particulier, en tout cas. Voilà. En tout cas, bah, vous pouvez retrouver Albatros sur son stream presque tous les jours.
Sauf
le week-end, effectivement. Bah, faut bien souffler un peu.
Non, mais j'essaierai de passer parce que c'est vrai que c'est pareil, je fais toujours 10 000 trucs entre gérer mon entreprise, écrire, faire les montages et tout. C'est vrai que des fois, bah, ça fait du bien de voir d'autres personnes qui font la même chose, donc ça peut être encourageant.
Mais c'est très cool. Moi, je trouve ça vraiment, ça fait du bien d'avoir ce genre de petit stream pour s'aider à se motiver et à pas être tout seul dans ces galères. C'est un peu l'intelligence collective qui s'aide, qui s'entraide. C'est cool.
Et demain, on fait la déclaration d'impôt. Trop bien.
Ah, moi, je l'ai faite, d'ailleurs, c'est bon.
Pareil.
Vous êtes joueur parce que franchement, quand t'as limite, les sites, ils buguent. Hein,
Attends, mais c'est quand la
gouvernement
C'est jusqu'à fin mai, je crois.
Ah, ouais, d'accord, okay.
Non,
ok.
Ah oui, non, parce que demain, on s'inscrit aussi sur les listes électorales. Demain, ça va être un stream administratif, les gars.
Mais c'est pas
fait. On prend pas le jour férié.
Électoral.
Écoutez, j'aime vivre dangereusement. Je pense
que
c'est jusqu'au 2 mai.
Il y a de ça, à partir de demain, si vous voulez qu'il y arrive ça.
Écoute, j'ai déjà fait.
J'ai déjà fait. Le entrepreneur, j'ai fait.
Ah, mais pourtant, c'est à partir du 1er.
Non, mais moi, j'ai fait celui du mois d'avant hier.
Ah, d'accord. Ah, non, moi, je fais. Moi, je suis tellement au tac-tac-tac que dès que ça
commence. Tout est fait, oui. Mais moi, je suis. Demain, c'est. Apparemment, c'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes, c'est demain. Bah voilà. Heureusement. Albatros sera là pour vous le rappeler demain. Allez vous inscrire. Du coup, si je veux remettre le lien dans le chat, vas-y, ne gêne pas. Et bien sûr, ce sera dans la pour les gens qui nous écoutent en podcast, ce sera dans la description pour tous ceux qui veulent aller découvrir ça. Donc, nous, on se retrouve tout de suite maintenant dans l'actu pop. N'oubliez pas, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a un BD Discovery qui est sorti. Allez écouter le BD Discovery. Il est très cool, il est très chou, il est très génial. Allez-y. Mm-hmm. Voilà. Excusez-moi.
Et c'est parti.
Et c'est tout. Allez, on est dispo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Il y a un TikTok qui est sorti il y a pas longtemps sur Taylor Swift, qui est un peu bidé. Je suis un peu déçu de vous.
Les Swifties français, vous me décevez.
De quoi ?
T'as pas mis les bons hashtags peut-être ?
Et j'en ai mis une chier, franchement. J'en ai mis.
Tu mets BookTok, y a toujours des gens pour voir à BookTok. Même ça n'a rien à voir. Non, peut-être pas vous mettre, ça n'a rien à voir.
mais vraiment, je suis allé chercher tous les hashtags possibles et imaginables autour de Taylor Swift. Hein. Mais donc voilà.
C'est vrai que t'as peu de vues. Je sais pas ce que t'as foutu avec ton TikTok parce que moi, je parle d'un truc de merde. J'ai plein de vues des fois. Bon,
Mais le pire, c'est qu'elle est en tête partout.
Ah, mais je suis remontée. Je pense que j'étais shadowban pendant.
Ouais, t'avais pu faire un truc parce que
j'ai
été shadowban
pendant un mois et maintenant c'est revenu normal.
Je sais pas ce que t'as
combien
fait.
Combien de temps j'ai mis pour le monter En fait, moi ça allait, c'était rapide. Mais en fait, j'ai comme ils voulaient, tous les membres de BD Discovery voulaient faire un retour précis sur tout l'épisode. J'ai dû attendre que tout le monde l'écoute, tout le monde écoute la deuxième version, tout le monde écoute la deuxième, la troisième version. Donc c'est ça qui a pris du temps puisque moi qui montais. Et ça a pris du temps aussi de Julien qui me fasse 45. Retour en disant tu coupes ça. Enfin, voilà, Faye me dit
ils ont 3 heures d'enregistrement, 20 minutes d'émission.
l'épisode fait 3h11 et je crois qu'on avait 4h20 de
retour. Oh, voilà, et attends, c'était ouais. les dernières actu pop où ils avaient autant d'heures d'enche.
Non, c'était le
mais
BD.
Excuse-moi, ouais. James, mais tu vas encore râler qu'on digresse et au montage. Je me dois d'intervenir.
Je m'excuse, Albatros, vraiment.
Non, mais.
Je pensais pas être montré. Voilà. Allez, on va se focus. On va y arriver.
Shame.
Allez, à la semaine prochaine. On fait des bisous et puis voilà.
Bisous.
Au revoir.